dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Vos cœurs sont-ils ouverts? Vos oreilles spirituelles sont-elles ouvertes? Évangile de Luc, chapitre 12, verset 4. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai celui que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas Saint-Passereau pour deux sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Je relis. Aucun de ces passereaux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Dans le psaume 13, nous allons le lire en entier, il n'y a que 6 versets si je me trompe. Nous allons donc lire ce psaume qui porte dans ma version comme titre « L'épreuve du temps ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Psaume 13, lisons ce psaume de David. Regardez dans quel état il se trouve au début du psaume. Psaume verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Changement d'attitude. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous pouvez garder le texte, on va lire quand même dans le psaume 105. J'ai hésité à le lire, mais je pense que c'est bien. Dans le psaume 105, au verset 16, il est fait mention du plan de Dieu pour Israël, bien sûr, lorsque Dieu a même commandé la famine dans plusieurs pays. Là, il est dit sur le pays, mais en vérité, c'est sur plusieurs pays. Psaume, parce que là, ça concerne qu'Israël. Mais enfin, c'est dans plusieurs pays que Dieu a provoqué une famine. Psaume 105, verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Ça change, hein? Esclave, on aurait pu dire, tiens, la prédication d'esclave à Seigneur. Et un autre texte, dans le livre de la Genèse, on va lire, je vous encouragerai à lire ces chapitres en entier, on va lire que ce qui nous intéresse. Genèse chapitre 40, verset 14. C'est Joseph qui a rendu service à l'échanson de Pharaon et qui, bien sûr, dans sa peine, lui demande de l'aider. Parce que des fois, on demande aux gens de nous aider, oui ou non? Est-ce que c'est normal de demander à des gens qui nous aident? Oui, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait naturel. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Genèse chapitre 40, verset 14, je vous encourage à lire tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après dans votre culte personnel. Genèse 40, verset 14, « Mais souviens-toi de moi, c'est Joseph qui parle, il est en prison, quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon, fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Alors, on va lire ce qui nous intéresse, le verset 23. « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Et le chapitre 40 avec quelques mots, les premiers mots, les cinq premiers mots, au bout de 2 ans, donc encore 2 ans d'épreuve. Je vais vous poser quelques questions, je vous demande d'y réfléchir très sérieusement. Des fois on pose des questions, elles paraissent simples ou elles paraissent inutiles, mais il y a quand même des questions qui nous permettent vraiment de réfléchir. Et Dieu, en fonction de la réponse, va aiguiller notre parcours. Croyez-moi, c'est plus sérieux que ce qu'on pense. Vous connaissez ce verset, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà, ça c'est une parole qui nous est, un commandement qui nous est demandé de vivre. « Ne te laisse pas vaincre par le mal. » Alors le psaume 13 nous montre, même si on s'appelle David, et qu'on est un homme de Dieu, qu'on a été choisi par Dieu, parce que Dieu avait vu en cet homme eh bien, des aptitudes, etc., etc., eh bien cet homme-là a eu des moments de doute par rapport au temps. Le temps, pas la météo, par rapport à la durée des épreuves. Nous sommes tous troublés lorsque les épreuves durent. Nous sommes tous à remettre tout en question lorsque les choses ne se passent pas comme nous voudrions qu'elles se passent, alors que nous pensons qu'en fonction de notre obéissance, elles devraient se passer comme si, comme ça. Et on a souvent été dans la confusion. Ça vous est déjà arrivé d'être dans la confusion? Oui, ça peut nous arriver. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, celle-ci. Il ne faut pas oublier que Dieu, j'allais dire, peut se servir de votre épreuve pour accomplir son plan. Nous, pourquoi ça nous dépasse? Nous, on est dans notre petit microcosme, on est là dans notre petite sphère, on peut même penser que Dieu ne s'intéresse pas trop à nous parce qu'il n'y a pas trop de connexion, etc. Mais j'aimerais vous dire que toutes les épreuves que vous traversez peuvent toutes concourir au plan de Dieu pour vous et pour les autres. Et mais il n'empêche que comme David, nous pouvons nous aussi, comme dans le psaume 13, poser ce genre de questions. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? C'est quand même David qui parle. Il est troublé et il ne comprend pas les combats qu'il mène, lui, ses ennemis, sa famille, etc. Et ça nous est déjà arrivé. Et on nous a dit, voyez, parce qu'il y a des gens qui sont capables de nous conseiller, mais il te faut supplier Dieu, tu pries, mais c'est trop superficiel. Supplie Dieu, tu verras, il va agir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a supplié Dieu, parce qu'il y a des différences entre la prière, la supplication, les requêtes, il y a plusieurs formes de prière. Cette femme qui s'approche de Jésus et qui crie, ça indique une supplication, ça n'a rien à voir avec les décibels, mais c'est une femme quand même qui exprime une supplication. Bon, Dieu va l'exaucer, et bien moi aussi, alors je vais supplier Dieu, et puis j'attends une réponse, et j'ai besoin d'une parole, parce que j'ai besoin de réconfort. Non, j'ai besoin de réconfort et j'ai besoin de consolation. Et puis, rien. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais demander à un ange de venir me parler. Après tout, est-ce que Dieu a déjà envoyé des anges pour réconforter certains de serviteurs de Dieu dans la Bible? Ben oui, Pierre était en prison, il envoie un ange, tac, un petit coup de coude dans les côtes, et vous connaissez la suite. Ah, mais moi si je vivais un truc comme ça, mais je serais fortifié. Ma foi n'en serait que décuplée. Et puis, quand Paul se posait des questions au sujet de la doctrine, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a ravi au troisième ciel pour discuter de la doctrine avec lui. Ben, tu vois, Seigneur, c'est le truc qu'il me faut. Qu'est-ce que ça vous dirait si le Seigneur vous ravissait au troisième ciel pour parler d'un sujet qui vous préoccupe? Ou Abraham, tiens, l'arrière-grand-père de Joseph. Ah ben tiens, il a eu des problèmes avec Lot et ben, Dieu lui a parlé par rapport au problème qu'il avait avec son neveu. Mais voilà, c'est ce qu'il me faut, j'ai des problèmes avec ma famille. Seigneur, tu devrais faire la même chose. Et plus on lit la Bible, plus on a l'impression que Dieu parlait tout le temps à certains hommes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que des fois, il se passait des décennies avant que Dieu ne parle à un frère une deuxième fois, comme c'est le cas pour Abraham, par exemple. Le thème de ma prédication ce matin, c'est le « Quand Dieu demeure silencieux ». Voilà le thème que j'ai donné à ma petite prédication. « Quand Dieu demeure silencieux ». Le silence rend les épreuves encore plus pénibles, encore plus difficiles. Parce qu'après tout, quand même, nous sommes des enfants de Dieu. Nous l'avons chanté, nous l'avons célébré. Il est notre Père et nous sommes devenus ses enfants par le sang de la croix. Mais voilà, Dieu ne me répond pas. Pourquoi Dieu m'oublie ? Alors nous commençons à nous poser les questions qui sont posées dans le psaume 13. Nous commençons à douter. Nous commençons à nous fatiguer, à tourner en rond, etc. Et on pourrait, à partir de cette étape de la prédication, penser à plein de situations qui se présentent dans nos vies. Ça n'a rien à voir avec celle de Joseph, mais quand même, ça fait 10 ans que je suis célibataire, ou 15 ans. Je me tiens à carreau, je suis sérieux, je suis sérieuse. Je m'applique à respecter la parole de Dieu et je suis toujours célibataire. Et je souffre toujours de ce célibat et Dieu ne me répond pas. Je cite ce cas parce qu'il y a des milliers de célibataires qui sont dans cette situation. À quoi ça sert ? Au fait, mais à quoi ça sert que je mette toute mon espérance en Dieu ? Puisque ça fait quand même 15 ans ou plus que ça dure. Je travaille dans cette entreprise depuis tant d'années. Personne n'a reconnu ma valeur d'ailleurs. Ça ne me plaît pas ce boulot. Je fais un travail qui ne me plaît pas, j'arrive pas à en trouver un autre, j'ai aucune direction de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi tu m'oublies ? Est-ce que tu t'intéresses à moi ? Est-ce que, tiens, en fait, c'est des questions qu'on peut se poser. Pas douter de l'existence de Dieu, mais je peux commencer à remettre en question l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime vraiment tel qu'il le dit à moi ? Est-ce que Dieu s'intéresse à moi ? Pourquoi tu n'agis pas ou plus ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en attendant ? Parce que là aussi, c'est un deuxième problème. Que je commence à me poser des questions par rapport à ce que Dieu pense de moi, c'est déjà, ça commence à être compliqué. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois faire en attendant, parce que je suis fidèle et je me demande bien ce qu'il me faut faire. En tous les cas, je vais vous donner un conseil. Débarrassez-vous de cette idée qui consisterait à penser que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Parce que si vous commencez à vous embourber dans ce genre de doute, vous ne vous en sortirez pas. Jésus a été des plus clairs. Il parle de saint passereau qu'on le vend pour 2 sous. Bien sûr que Dieu a créé tous les oiseaux du ciel. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne qu'aucun oiseau n'est oublié devant Dieu. Et on vaut un petit peu plus quand même que les passereaux du ciel. Si vous pensez que Dieu ne s'intéresse pas à vous, ça ne va pas. Ça va pas. Il vous faut régler ce problème. Parce que vous allez vous retrouver comme une voiture sur le bord de la route. Vous savez, ces voitures qu'on voit des fois pendant des mois, des années qui restent. Certaines sont sur cales, les roues ont été enlevées. Voilà. Il y a des chrétiens, ils sont exactement dans ce cas de figure parce qu'ils ont estimé qu'eux pouvaient supposer que Dieu ne s'intéressait pas à eux. Et ils ont co-circuité le plan de Dieu. Et si le plan de Dieu est excellent, il n'empêche qu'un homme, parce qu'il a le libre arbitre, peut circuiter le plan de Dieu. Un homme peut ne pas se convertir s'il ne veut pas. Est-ce que je vous fais une parenthèse. Imaginons Dieu change d'avis par rapport à la conversion. Dans le ciel, il décrète une loi. Bon, c'est pas, ce que je vous dis, ce n'est pas biblique. Il décrète une loi à partir du 25 février 2019. Tous les hommes se convertiront parce que je les convertirai tous. Est-ce que Dieu pourrait le faire ? Il ne le fera pas parce que sa parole est scellée. Je vois déjà le regard des anciens, ne vous inquiétez pas, c'est une parenthèse. Mais si Dieu voulait que tous les hommes se convertissent, tout le monde se convertirait. D'accord ? Il faut bien, il y a des lois. Moi, je vous dis que Dieu s'intéresse à vous. Et cette histoire où nous voyons les luttes de Joseph, de David, et pourquoi tu m'oublies, et pourquoi ci, et pourquoi là, et je ne comprends pas, et il y en a assez, je n'en peux plus, et mes ennemis qui me mettent le grappin dessus, etc., j'en peux plus. Puis bon, on a vu la fin, c'est la conclusion, mais sur la prédication, il se ressaisit, il dit stop, ça suffit, Seigneur, je te connais que j'ai été bête. Moi, je mets ma confiance en toi. On va voir que c'est une décision qu'il faut absolument prendre. L'exemple de Joseph est un très très bon exemple. Pourquoi ? Parce que Dieu a un plan pour nous, mais le plan qu'il a pour nous, en fin de compte, est lié au plan de l'Église. Et c'est là qu'on commence parfois à piétiner, parce que nous, souvent, notre plan, c'est notre petit nombril, on s'intéresse à notre bénédiction, alors surtout à la bénédiction des enfants et des petits-enfants. Mais après, le plan de Dieu pour l'Église, est-ce que c'est important pour vous, faites l'Église, l'évangélisation, la vie de prière de l'Église, ou est-ce que vous êtes enfermé depuis des années dans des frustrations? Parce que quand on voit certaines questions, cela prouve qu'il y a de la frustration. On en a tous eu, mais ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois, quelques années, ouais, je peux le dire moi, quelques années, puis ça peut durer toute une vie. Et il y a des gens qui sont frustrés toute leur vie, qui sont, on le dit aujourd'hui, en vrac toute leur vie. C'est dommage, mais Dieu nous laisse libres. L'expérience de Joseph, elle est très intéressante parce qu'elle parle de, je le répète, du plan personnel qui est relié au plan de l'Église. Et ça, si ça ne vous préoccupe pas, c'est sûr que vous risquez de tourner en rond pendant longtemps. J'aimerais que ce matin, plusieurs se réalisent que votre vie est importante pour l'Église, que vous avez votre place dans l'Église, que Dieu a un plan précis pour vous dans le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Si votre vie spirituelle se détache beaucoup de l'Église, même si vous aimez la solitude, ça n'a rien à voir, il y a un problème. Et Dieu va dépêcher des situations pour le régler. Ça peut traîner longtemps. Donc Joseph est là, les difficultés ont commencé dans sa vie, il n'avait que 17 ans. 17 ans, c'est pas vieux. Hein. Vous êtes d'accord? Vous aimeriez revenir à 17 ans? Vous aimeriez revenir à 17 ans? Il avait 17 ans. Non mais franchement, 17 ans, mais enfin ça nous prouve aussi qu'à 17 ans, on peut être choisi par Dieu parce que de la maturité est dans le cœur de l'homme. Il y a des gens qui, à 17 ans, sont prêts. Samuel, il avait quel âge quand il a été choisi par Dieu? Vous avez dit, ouais, mais tu es dans le sein de sa mère. Donc, mais à part ça, à partir de quand Dieu a-t-il pu parler à ce garçon? C'était un enfant. Donc vous voyez que la maturité, en vérité, bon, il y a toute une progression, c'est évident. Quand Samuel a été âgé, il y avait certainement une maturité qu'il n'avait pas lorsqu'il était qu'un enfant. Mais il n'empêche que même enfant, Dieu a pu se servir de lui. Ça aussi, c'est une question, à part de la prédication, que l'on pourrait se poser. Est-ce que Dieu peut se servir de moi? Est-ce que Dieu peut se servir de moi? Donc, en tous les cas, le Seigneur pouvait se servir de Joseph à partir de 17 ans. C'est très intéressant. Les choses étaient compliquées comme elles peuvent se présenter dans des familles. Dans les familles, est-ce qu'il y a des familles idéales? Est-ce que ça existe, les familles parfaites? Est-ce que c'est... Bon. Ça n'existe pas. Il était le préféré de son père. Son père, il l'avait eu tard. Et donc, c'était le petit chouchou de la maison. Comment ça? Des hommes comme Jacob, ils avaient des chouchous. Rebecca, qui préférait l'autre, Ésaü, Jacob, vous connaissez l'histoire? Qui écoute aux portes. Enfin, dans les familles, il y a des situations que Dieu permet. Il faut n'idéaliser pas la famille, n'idéalisez pas le conjoint. La seule personne que vous pouvez idéaliser, c'est le Seigneur. N'idéalisez pas votre futur mari. Je suis tombé sur un mari, il est parfait. Vous découvrirez, avec quelques années d'expérience, que ce n'était pas tout à fait le cas. Et vice-versa. C'est un problème. Mais bien sûr qu'on a besoin d'idéal, mais attention quand même de ne pas aller trop loin. Donc, Joseph était le préféré de son papa. Les frères ont commencé à avoir de la jalousie. Vous le relirez, lisez-le. Ils ont commencé à avoir de la jalousie, ça s'est amplifié. Le papa, en plus, bon, il y a des enseignements bibliques derrière, lui a confectionné un super costume. Et cette jalousie s'est transformée en haine. Et Joseph, qui était sympathique, a reçu de la part du Seigneur deux songes. Il n'a pas trouvé mieux, bien sûr, parce qu'il avait, c'est comme ça, de le partager avec les frangins. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? Vous ne savez pas ce que j'ai rêvé cette nuit? Il était content, lui. Dieu lui avait parlé. Et cette jalousie extrême s'est vraiment transformée en haine. En plus, ces deux songes indiquaient qu'un jour, toute sa famille se prosternerait devant lui. Alors ça a été le bouquet, comme on dit. Le résultat, c'est qu'ils se sont concertés, non pas pour savoir comment il faudrait se prosterner un jour devant lui, ils se sont concertés pour savoir comment ils pourraient le tuer. Mais vous parlez de qui? Oui, je parle des 12 fils de Jacob, les héritiers de la promesse. De qui? Ouais. Ça vous fait quoi, ça, au fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça nous indique que même si Dieu a des promesses pour nous, nous pouvons être charnels par rapport à des situations. Voilà. Et ça, en même temps, c'est assez rassurant. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Dans un jour, le papa, bien sûr, il était obéissant. Joseph était un jeune homme qui était obéissant. Joseph, son papa lui dit, écoute, demain, tu vas prendre soin. Tes frères, ils sont partis garder les moutons. Ça fait des semaines qu'ils sont partis. Je les ai envoyés à Sichem. Sichem, pour que vous le sachiez, c'est Naplouse aujourd'hui. Vous savez, cette ville dont on parle souvent aux actualités, il se passe pas mal de choses en ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Et il les envoie à Sichem, ils n'y sont pas, et donc ils se renseignent, ils sont à Dothan. Dothan, c'est 40 km plus loin, à pied. Vous voyez, c'est un garçon qui obéissait, il va voir ses frères, et quand ses frères le voient arriver, il complote de le tuer. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Comment ça peut se passer des fois dans les familles? Je comprends pas, dans ma famille, il y a plein de problèmes, je comprends pas, on est tous divisés. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous le dis franchement, je voudrais vous rassurer, frères et sœurs. Il y a des combats qu'on ne soupçonne pas, pour peu que dans une même famille, il y en a qui soient vraiment attachés à Dieu et d'autres qui sont contre Dieu. Laissez-moi vous dire que ça va générer un conflit. C'est biblique, je ne prends pas le temps de vous l'expliquer. Donc, il s'en va, il le voit arriver, il le prennent, il lui déchire sa tunique, son beau costume, et il le jette dans une citerne en espérant qu'il va y mourir. Et il s'assire pour manger. C'est écrit. Il s'assire ensuite pour manger. Pour vous montrer, quand on a de la jalousie, que la jalousie se transforme en amertume, en haine, comment on peut perdre la conscience. Parce que quand même, ça vous montre, vous rendez compte, on envisage de tuer quelqu'un, de balancer son frère dans une citerne pour qu'il y meure, ou comment on va faire pour le tuer dans cette citerne, et ils se sont tous assis pour manger. Mes frères et sœurs, il y a la foi, mais aussi il faut veiller sur sa conscience. Il faut veiller sur sa conscience. Alors à ce moment-là, je ne sais pas ce que Joseph a dû penser, imaginez-vous de vivre la même situation dans les heures qui vont suivre. Peut-être il a dû se dire, le Seigneur il va me dire un mot. Vous vous rendez compte, certainement blessé, des habits déchirés, au fond de sa citerne, incapable de remonter, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dû penser? Vous allez me dire, on le lui demandera quand on le verra. D'accord, mais à part ça, qu'est-ce qu'il a dû penser? Vous savez, il s'en passe des choses dans la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la souffrance, il n'avait que 17 ans, ses frères, avec plein de haine, veulent le tuer. Il le sait, il a vu dans leurs yeux cette haine, et lui, il est là, certainement accroupi au fond de ce trou. Qu'a-t-il dû penser? Peut-être a-t-il dû prier, d'après vous? Bien sûr, il a dû prier, c'est évident. Mais Dieu n'a pas répondu. Le silence. Et alors qu'ils discutaient, gentiment, pour savoir comment en finir avec leur frère qui était méchant. Parce que, alors quelqu'un m'a dit un jour, je l'ai lu, on ne me l'a pas dit, je l'ai lu dans des bouquins que des théologiens ont écrits. Si Joseph a vécu cette affaire, c'est parce que c'était un orgueilleux. Alors moi j'ai lu dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'utilise pas les orgueilleux. Est-ce que vous comprenez la différence? Il était naïf, il n'aurait peut-être pas dû raconter ses rêves à ses frères. Bon, mais s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose de toute façon. Une chose est certaine, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Joseph n'était pas un orgueilleux. C'est la preuve que même quand on obéit à Dieu, on peut s'attraper pas mal d'épreuves. Il faut bien l'accepter, ça. Bon, il est là dans la citerne, il est là, il a obéi. Il était en train d'obéir à son père qui voulait avoir des nouvelles. Peut-être il a dû se poser la question, mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise en racontant les choses? Je ne sais pas, vous savez, ça a duré 13 ans l'épreuve. Mais je pense qu'il a dû s'en poser des questions. Par hasard, alors je vais utiliser plusieurs fois le mot par hasard ou l'expression par hasard dans cette prédication pour vous montrer que Dieu contrôle tout. Je ne crois pas au hasard, mais par hasard, alors qu'ils discutaient autour d'un bon gigot comment se débarrasser de leur frère, une caravane d'Ismaélites passe par là et ils ont dit bon, on ne va pas le tuer, c'est quand même pas sain. Il y en a un qui a pris sa défense, on ne va pas le tuer, on va le vendre. On va le vendre comme un animal. Parce que nous, on est là, tout ça, ça nous dépasse, la vente des hommes, les esclaves, tout ça. Même fait, on l'a lu dans le psaume 105, il est devenu un esclave pendant des années. Ils l'ont vendu comme un animal. Imaginez-vous, au marché de Toulouse, au marché des Carmes, qu'à partir de demain, eh bien, on vende des gens dans des cages ou pas. Voilà, on les vende et que les gens les achètent au prix, à la meilleure offre, aux enchères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, il a eu la chance, par rapport à ce merveilleux hasard, de ne pas mourir. Et donc, il est parti. Combien de nuits a-t-il dû réfléchir? Peut-être il a dit, Seigneur, mais parle-moi. Moi, je ne sais pas comment vous feriez. Imaginez-vous qu'on vous amène, esclave, attaché derrière un chameau, pendant des journées à marcher, attaché comme un esclave. Je suis sûr qu'il a dû dire, Seigneur, délivrez-moi. Oui ou non? Je ne sais pas si vous réalisez comment ça marchait. Parce que nous, on se fait nos films. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser. Et il n'avait que 17 ans, il a dû partir, donc avec ses habits déchirés, il ne comprenait pas la langue, il parlait hébreu, les autres parlaient égyptien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a dû vivre, et je suis sûr que quand la nuit dormait sous un palmier ou autre, ou dans le sable, tout simplement, sur peut-être même pas une couverture, eh bien il devait dire, Seigneur, tu as parlé à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, je t'en supplie, parle-moi. Et paf, le silence, une fois de plus. Tout ça, c'est écrit dans la Bible, mes frères et sœurs, c'est sérieux. Il est arrivé en Égypte par hasard. Il a été vendu au chef des gardes de Pharaon, par hasard. Le chef des gardes l'a acheté, il l'a pris. Combien de temps? Parce que là, on le voit de suite, parce que la Bible synthétise les histoires. Mais combien d'années a-t-il été juste un esclave à nettoyer les écuries? J'en sais rien. À garder les cochons? J'en sais rien. C'est quand vous lisez l'histoire, vous vous imaginez comment étaient traités les esclaves, les étrangers, les émigrés, les fuyards. Et puis, ça a toujours existé. S'il en est là, c'est qu'il a dû faire une grosse bêtise. Eh bien, vous savez, les gens, la superstition. On ne soupçonne pas la souffrance de ce jeune homme. Il n'avait que 17 ans, imaginez-vous. Et voilà, il est là. Nous, on le voit de suite. L'Éternel est avec lui. Dieu le mit en avant dans la maison de Potiphar. Tout ce que se faisait ne se faisait que par lui. Mais ne vous imaginez pas que Potiphar lui a confié la législation de sa maison en 3 semaines. Ça a peut-être duré 3 ou 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évident. On n'a pas les dates. On sait que l'épreuve a duré 13 ans, entre tout. En tous les cas, lui, il est là. Ça commence à s'arranger. Il est chef de la maison de Potiphar, il doit être bien habillé. Voilà, il commande de tout, il organise, c'est un superintendant. Il a beaucoup appris, il ne sait pas encore ce que Dieu lui réserve dans les 10 ans qui vont suivre. Mais vous savez, mes frères et sœurs, ça nous indique une chose. Ça pourrait être une autre prédication, bien entendu. Mais c'est que dans l'épreuve que le Seigneur permet que nous traversions, quand nous obéissons, il faut comprendre que Dieu s'attelle aussi à nous enseigner des choses qui vont nous être utiles dans les années à venir. Même si ça ne vous plaît pas. Et si vous commencez à bouder, ah non, 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 moi je me accorderai avec Dieu quand je serai sorti de l'épreuve. Et c'est pour ça que plein de chrétiens sont toujours dans le brouillard, parce que dans l'épreuve, ils ne sont pas fidèles à une chose qu'ils devraient faire. Parce que là on dit, oh Seigneur, je voudrais ressembler à Joseph. Ben oui, écoutez bien. Bon, je voudrais que Dieu m'utilise, mais en plus, Dieu veut. Est-ce que Dieu cherche des hommes, des femmes qu'il peut utiliser? Ben oui. Les choses s'arrangent, Dieu est avec lui. Vous voyez, on pourrait lire le verset qui nous intéresse quand même. C'est, vous voyez, Genèse 39, verset 1er. C'est bien, parce que quand même, c'est bien, parce que l'important, ce n'était pas en fin de compte qu'il soit esclave ou roi. Ce qui était important, c'était que Dieu soit avec lui. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Je ne sais pas dans quoi vous êtes, je ne sais pas comment vous écoutez cette prédication, mais j'aimerais que vous réfléchissiez bien, que Dieu parle au travers d'une prédication. On fit descendre Joseph en Égypte. N'oubliez pas, il ne parle pas l'égyptien, il va l'apprendre, il va devoir l'apprendre. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Voilà la clé un petit peu. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas dans quoi vous êtes, je ne sais pas ce que Dieu permet que vous traversiez. Mais une chose est sûre, c'est que si vous obéissez, dans tout ce que vous ne comprenez pas, même dans vos frustrations les plus profondes, l'Éternel peut être avec vous. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils sont dans l'épreuve, ils occultent la bénédiction. Jésus en parle. Ceux qui reçoivent la parole avec joie. Ah, ils reçoivent la parole avec joie. Ça va bien se terminer, c'est sûr. Et pourtant, il est dit qu'il y a des pierres et que dès que survient une tentation, dans d'autres textes, c'est tribulation, persécution. Dans Luc, je crois que c'est dans Luc, ou dans Marc, dans un évangile, c'est sûr. Il est dit que dès que survient une tentation, il y trouve une occasion de chute. C'est même pas la grosse épreuve, une tentation. C'est vrai que la tentation génère également de la souffrance. Bon, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, il était là, il a été fidèle. Dieu est avec lui, le temps passe, les mois ont passé, peut-être même les années. Il est élevé comme intendant de la maison de Potiphar, c'était quelque chose. Il avait appris certainement bien l'Égyptien, etc., etc. Et voilà que tout commençait à s'arranger. Et quand tout commence à s'arranger pour lui, la femme de Potiphar, qui était une femme certainement très légère, a commencé à porter ses regards sur Joseph, la Bible nous dit qu'il était beau de taille et beau de figure. Ce n'était pas sa faute, le pauvre. Il était beau. Et cette femme, elle a commencé à convoiter cet homme. Ça a duré tous les jours. Tous les jours. Il était loin de chez lui. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a beaucoup d'hommes qui aurait l'honnêteté de plaire autant à Dieu. Personne ne le voyait. Qu'est-ce qu'il dit au fait ? Qu'est-ce qu'il répond à cette femme ? On pourrait le lire ça. Genèse 39, verset 9. Regardez sa réponse. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pourtant, il était tout seul. Personne ne l'aurait vu. Mais personne. Un aussi grand mal. Alors, je pensais ce matin, en priant, au texte dans le psaume 19 où il est parlé de grands péchés. Parce que vous savez, nous, on a un petit peu facilité les choses en parlant de que les péchés sont tous pareils, etc. Je ne vais pas en parler parce que ça alourdirait trop la prédication. Mais je peux vous dire quand même qu'il y a de grands péchés. C'est écrit. Si je vous le dis, c'est que c'est écrit. Verset 10, quoiqu'il parlait tous les jours, elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Bon, ça s'était arrangé, il y avait cette affaire, bien sûr, il était l'intendant, il était beau, etc. Et voilà, paf, elle va, alors bien sûr, il va refuser, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'accuser de viol. Et il va se retrouver une fois de plus en prison. Mais, on va lire le verset qui nous intéresse. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous êtes, ce que votre obéissance provoquera. L'obéissance peut amener beaucoup de bénédictions. L'obéissance peut amener des épreuves. Ça, c'est sûr que nous, on est tout le temps en train de mettre les gens dans de fausses doctrines. Si vous obéissez, vous serez bénis. Est-ce que Joseph a été béni, au fait? Ben oui. Pas de suite, mais enfin, c'était quand même une belle espérance. En tous les cas, il nous bénit, je vous le dis. Je pense que là, quand il était en prison, quand même, et je ne sais pas si vous vous rendez compte les accusations qu'il a dû subir, ce que les gens pensaient de lui, les autres prisonniers, les combats avec qui il était, dans quelle prison, avec qui dormait-il, etc. Ça, on ne se rend pas compte, mes frères et sœurs, la profondeur de ces épreuves. Mais lui, il est là, comment ça? J'obéis, je me tiens à carreau, je suis fidèle, vraiment je m'applique, et paf! Mais je me termine en prison, moi je suis fidèle. Mais Dieu, il n'est pas tant que ça fidèle, en fin de compte. Ben, en fait, moi, je suis fidèle à Dieu. Et qu'est-ce qui me fait ? Où elle est, la fidélité de Dieu, dans cette affaire ? Ça fait 3 ans que ça dure, 4 ans, 5 ans. Je refuse de coucher avec cette femme parce que je suis intègre. Et je me retrouve en prison. En prison, sans amis, sans personne, sans famille, sans église, sans argent, sans possibilité de preuve de faire un appel, sans Bible, sans rien. Même pas une parole de Dieu, encore ce silence. Loin de ma maison, loin de mon pays. Ah, franchement, c'est ça Dieu ? Vous voyez, il y en a combien d'après vous là qui auraient commencé à décrocher sur 100 chrétiens ? Et on ne connaît pas tout. Des fois, c'est presque dommage. Dieu ne l'a pas voulu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça serait quand même bien de savoir. Et là, il a dû prier. Je ne connais pas Joseph, je connais bien son histoire. Mais je commence à comprendre que ce garçon si jeune a dû prier. Et dire, tu te rends compte, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais jamais dû raconter ces choses à mes frères. Quelle boulette j'ai pu faire ? Mais quelle erreur j'ai fait ? Imaginez-vous, 13 ans, 13 ans. La souffrance, vous savez la souffrance, parce qu'il faut la plaquer dans nos vies maintenant. Moi j'ai vu déjà, mais quand même, mais qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans cette maison ? Qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans ce foyer ? Mes parents, ils sont en vrac, il n'y a que des problèmes, et ces problèmes me rejaillissent sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans ce foyer ? Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui se posent la question ? Oui, il faut le projeter, c'est pas du tout pour... On peut faire une très belle étude. On a le droit, avec ce texte, de faire de belles études bibliques, de la théologie, de l'édification. Mais en même temps, il faut que de suite, on se dise, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Mes deux parents sont des alcooliques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait naître dans ce foyer où les problèmes de mes parents sont devenus les miens ? Etc. On pourrait les multiplier, ces exemples. Je ne veux pas prendre trop de temps. Mais mes frères et sœurs, la vie, elle est dure parfois, la vie. Mais nous avons un Dieu qui nous a laissé ces histoires pour que nous comprenions qu'il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de hasard. Bien sûr que le hasard fait que paf, le hasard fait que ceci, le hasard fait qu'il se retrouve dans la prison. Le temps passe, les mois passent. Et là, pareil, le chef de la prison, peut-être que le chef de la prison, il a été informé par Potiphar. Il dit, tu sais, ce gars, il est en prison, mais je vais te dire, c'est injuste. Parce qu'il, vous savez, quand il a dit que Potiphar s'est irrité contre... Il s'est irrité, moi je suis sûr que ce n'est pas contre Joseph, hein, il le connaissait. Vous savez, quand vous avez confiance en quelqu'un, vous savez ce qu'il vaut. Je suis sûr qu'il était furieux contre sa femme. Oui, ça ne s'est pas écrit, mais moi j'en suis sûr. Et il a dû dire au gars de la prison, écoute, tu peux faire confiance à ce gars, il est sérieux. Et de suite, bien sûr, il a été levé, il était responsable de la prison. C'est sûr que quand vous avez quelqu'un qui tient debout, ça vaut la peine, hein, de lui confier des responsabilités. Par hasard, quelques mois après, deux prisonniers hors normes, se retrouvent dans la même prison, dans la même aile de la prison que celle de Joseph. Les chansons et le panetier du roi. Deux gars qui avaient deux grosses fonctions, puisqu'ils étaient chargés, c'était des hommes de confiance qui étaient chargés de la nourriture et du vin que le roi prenait. Et il y en a un qui a dû faire une grosse boulette, et ils se retrouvent, on ne sait pas qui c'est, ils se retrouvent tous les deux en prison, par hasard, en même temps que cette affaire. Il faut comprendre avec ceci, que je ne développe pas non plus, qu'il y a le temps de Dieu, jusqu'au temps, on l'a lu dans le psaume 107. Mes frères et sœurs, si vous avez confiance en Dieu, rappelez-vous qu'il contrôle le temps. Il savait exactement, il connaît tout le Seigneur. Et Dieu a même utilisé deux païens, deux inconvertis, pour faire concourir les choses à ses plans. N'oubliez pas que Dieu peut utiliser des gens qui ne sont pas chrétiens pour faire aboutir ses plans. N'oubliez pas. Il est en prison. Il reçoit ses hommes, il les reçoit. D'ailleurs, dans quel état il est, le pauvre Joseph ? Parce que là, ça fait 8 ans que ça dure, ça fait peut-être 10 ans, puisqu'il va rester 2 ans après cette affaire. Normalement, ça fait 11 ans que ça dure, puisqu'après, il va rester encore 2 ans en prison. Ça fait 11 ans là que ça dure. Regardez, on va lire le verset qui nous... verset 5. Regardez bien comment c'est beau, franchement.
Ouais, c'est magnifique, je trouve.
Pendant la même, une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. N'oubliez pas que Joseph est en prison parce qu'il a obéi à Dieu. C'est donc c'est injuste. Et eux sont en prison parce qu'il y en a un qui a fait vraiment un péché. Regardez la suite. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Ça veut dire que Joseph, lui, ne l'était pas. Écoutez, regardez bien mes frères. Vous savez, la parole, il faut la méditer. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, regardez bien la question qu'il leur pose. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Vous ne trouvez pas que c'est beau ça, quand dans l'épreuve, et je ne sais pas, mais je sais pas comment, bon c'est vrai que moi je l'ai lu 100 fois, 200 fois cette histoire, mais sérieusement, je suis dans l'épreuve à cause de mon obéissance, je suis en prison et je vais vers les gens leur faire du bien. Pourquoi avez-vous mis mauvais visage aujourd'hui ? Vous ne trouvez pas ça quand même que c'est merveilleux ? Je comprends pourquoi Dieu a choisi Joseph, sincèrement. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Regardez la réponse. Joseph leur dit, n'est-ce pas... Alors là, la réponse, elle est, on peut la transvaser dans plusieurs situations. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Vous pouvez dire, gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est en prison depuis 11 ans, enfin, il est dans l'épreuve depuis 11 ans, et il dit à deux officiers de Pharaon, dont un a commis certainement un gros péché, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Ça veut dire que lui, il était dans quoi ? Dans le repos de la foi. Ni plus ni moins. Donc, il va donner l'explication de ses songes, et ce qu'il a expliqué va arriver. Là aussi, l'honnêteté, à les chansons, il va dire, voilà, c'est bien ce qui va t'arriver. Mais voyez cette honnêteté de dire toujours la vérité. Au panetier, ça ne va pas être édifiant, mais il va dire la vérité. Et là, pour les responsables, mes frères et sœurs, vous qui aspirez à être diacre, diaconesse, responsable, pasteur, évêque, je ne sais rien, ce à quoi Dieu vous appellera, cette honnêteté de dire la vérité aux gens, c'est important ça aussi. Voilà, là, on a un des traits de caractère. Et voilà, il demande à les chansons, écoute, s'il te plaît, souviens-toi de moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Il est là, il n'en peut plus, il veut sortir, il n'est pas maso, Joseph. Et il lui dit, écoute, quand tu seras auprès de Pharaon, tu es un des officiers de Pharaon, s'il te plaît, fais quelque chose pour que je sorte. Et la chanson l'a oublié. On l'a lu, c'est écrit, il l'oublia. Et je peux vous dire que c'était très bien. Si vous voulez savoir pourquoi je vous dis ça, vous me le demanderez, je vous le dirai à côté. Il l'oublia, et c'était très bien. Et ça a duré 2 ans de plus l'épreuve. Et au bout de 2 ans, Pharaon, par hasard, ça tombe sur lui, il va faire un songe qui va se répéter 2 fois. Et par hasard, les chansons étaient là lorsque Pharaon a raconté ses songes. Et les chansons, il est là, il est embarrassé, mais en fait, écoute, il va lui dire, écoute, je vais rappeler le souvenir de ma faute, mais quand j'étais en prison, tu te souviens, pour l'affaire, eh bien, il y avait un jeune hébreu, et il nous a donné l'explication. Et de suite, Pharaon dit, eh bien, faites-le venir. L'esclave, l'étranger immigré fuyant, faites-le venir. En une heure, en demi-heure, ou en 2 heures, qu'importe, le jeune esclave est devenu gouverneur d'Égypte en une heure. Allez, en une après-midi pour ne pas blesser les susceptibilités. En peu de temps, ce jeune homme emprisonné va devenir gouverneur de l'Égypte. Un juif gouverneur dans un pays arabe, je vous avoue que c'est pas mal. Sincèrement, même à l'époque... Pourquoi ? Parce que ce garçon a accepté 13 ans d'épreuves. Il obéissait, chaque fois ça s'aggravait. Oui, aujourd'hui les chrétiens, ils croient pour un temps, dès que survient une tribulation à cause de la tentation, « Ah, si c'est ça, marche avec Dieu, moi je suis fidèle, il n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, et je n'argumente pas pour pas... »
pour pas appauvrir la discussion ou le débat. Mais mes frères et sœurs, pour qu'un chef d'État, la personne la plus puissante du monde à l'époque, confie son pays à un jeune esclave, il faut qu'il ait vraiment été impressionné par sa réponse. Quand il se présente, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un esclave, il n'a que 30 ans là. Il a 30 ans, il se présente devant la personne la plus puissante du monde à l'époque et il n'a pas commencé à faire du chantage. Écoute, oui, d'accord, je te le dis, mais ce serait bien que je te le dis à condition que tu me sortes de prison. Non, il dit, non, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Vous voyez combien il a glorifié le nom du Seigneur. Le témoignage, lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous sommes confrontés à des prisonniers, à des officiers, à des gens méchants, à des femmes perverses, j'en sais rien, à toutes les personnes qui se rencontrent, avoir cette honnêteté à 17 ans. D'ailleurs, quand il va se marier, le pharaon va lui proposer une épouse et ils vont avoir un enfant qu'ils vont appeler, qui sait le nom du premier fils de Joseph ? Manassé. Pourquoi Dieu appelle-t-il son fils Manassé? Vous savez ce que ça veut dire, Manassé? Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Il a eu de la peine. Vous savez, quand vos frères vous frappent, vous jettent, vous blessent dans une citerne, c'est sûr qu'il faudrait faire maintenant les deux images. Vous voyez, un jeune débarrassé, blessé, saignant dans une citerne, et 13 ans après, sur le trône d'Égypte. Alors bien sûr que nous, on ne va pas dire « Ah ben c'est bon, j'ai compris. Je vais accepter l'épreuve pour devenir Premier ministre. » Je pense que certains n'en voudraient pas du poste. Les choses ont bien changé. Mais quelle leçon! Je vous demande de peut-être, je vais dire une chose que je veux que vous compreniez ce que je vais vous dire, de vous mettre à genoux et lire la suite. De vous mettre à genoux devant le Seigneur chez vous, peut-être pas physiquement, mais de lire la suite, de voir comment Dieu va utiliser ce jeune pour son pays, pour sa famille, quand il va revoir ses frères. Vous croyez qu'en prison, il aurait pu dire, bon d'accord, j'ai confiance à Dieu, mes frères, ils m'ont fait un sale coup, normalement, si j'ai bien compris le songe, mes frères, un jour, ils se prosterneront devant moi. Attends que je sois au pouvoir, ils vont comprendre quand je vais les revoir. Est-ce qu'il aurait pu emmagasiner des paroles de vengeance et dire, quand je vais les revoir, les frangins, eh bien, ils vont passer un sale moment. D'ailleurs, si j'en arrive là, je m'occuperai de leur cas. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Mais bien sûr qu'il aurait pu le faire. Plein l'aurait fait. Il aurait dit, attends, le renvoie. Quand ses frères sont venus. Mais lisez la suite. Lisez-la avec vos yeux ouverts, vos oreilles ouvertes. Lisons-la avec un cœur ouvert. Et vous allez voir, il va leur donner à manger. Quand on pardonne, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a pardonné? Eh bien, il fait du bien aux autres. Si vous ne faites pas du bien aux autres, c'est qu'il y a eu un problème. Vous avez envie de faire du bien aux autres. Même à des gens qui vous ont frappé, peut-être pas physiquement, mais vous savez, des fois, les coups sont plus durs par la parole. Vous savez, on a des fois entendu, j'aurais préféré me casser une jambe que traverser une dépression. C'est vrai, ça. C'est tout à fait vrai. Il y a des souffrances internes qui sont plus graves que des souffrances physiques. C'est sûr. Mes frères et sœurs, Dieu, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, quand vous lisez la conclusion de... Quand les frères vont commencer... Même ils vont mentir à un moment donné. Voyez, ils ont été bénis, mais ils ne sont pas trop clairs encore. Joseph va leur dire, mais non. C'est Dieu qui m'a envoyé là. Nous, si on est charnel, on pourrait dire, attends. C'est pas Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte. C'est la jalousie, la méchanceté, la haine, le péché. Point barre. Oui ou non? C'est qui a envoyé Joseph en Égypte? Le péché ou Dieu? Eh bien, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu maîtrise tout. Et si j'ai utilisé volontairement l'expression par hasard, c'est pour que vous compreniez bien que Dieu contrôle tout, même quand les situations sont complètement loufoques. Il maîtrise tout. Il voulait du bien pour Joseph, il voulait du bien pour ses frères, et même pour Judas, l'ancêtre de Jésus. L'ancêtre de Jésus. qui était dans un état lamentable. Eh bien, ça n'a pas annulé les promesses. Peut-être que vous n'allez pas trop bien. Ne vous imaginez pas que parce que vous n'allez pas trop bien, de suite, ça annule toutes les promesses que Dieu a pour vous. Non, non. Vous devez pouvoir dire, non, non, Dieu, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous ne pensez pas qu'elle est belle, cette histoire ? Alors, je termine. Écoutez bien. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Dans cette histoire, vous voyez une chose qui est tout à fait simple maintenant que je vous ai tout dit. C'est que même si Dieu ne parle pas, il agit. Là, vous avez la preuve flagrante. Dieu n'est pas obligé de nous parler. Il aurait pu parler. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu parler à son père ? À qui il avait déjà parlé plusieurs fois ? Son père est resté pendant 22 ans, parce qu'il y a eu les 13 ans, puis après il y a eu les 7 ans d'abondance, et puis après il y a eu les 2 ans, puisqu'il dit il reste encore 5 ans. Pendant 22 ans, son père a cru qu'il était mort. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu se révéler à son père ? Lui aurait dit, écoute, tes autres fils, ils ont fait un sale coup à Joseph, mais sache qu'il est vivant et que ses songes... Il aurait pu ? Non. Pourquoi ? Parce que Dieu sait ce qu'il doit faire. Il sait s'il doit parler ou il sait s'il doit se taire. Ce qu'il faut, c'est que nous comprenions que même si Dieu ne te parle pas, il agit si tu lui fais confiance, si tu lui obéis, si tu lui obéis. Parce que nous avons en fin de compte, la prédication, il faut la conclure. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais en attendant ? En attendant que Dieu intervienne en son temps. Parce que cette affaire, elle a duré 13 ans, elle aurait pu durer 3 mois. C'est clair, vous l'avez lu dans le psaume 13. Écoutez bien, je sais que je l'ai dit 50 fois. Mais si vous vous débattez, si vous êtes en train de tourner autour du lit, que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il faut vous jeter dedans, laissez-moi vous dire que c'est que vous ne faites pas confiance à Dieu. Croire en Dieu, c'est bien. Aller à l'église, c'est très bien. Lire sa Bible, c'est bien. Prêcher l'évangile, c'est bien. Mais ça ne remplacera jamais la confiance en Dieu. Et Joseph avait décidé d'avoir confiance en Dieu. Je vous le répète quand même, pas de Bible, pas de parents, pas d'amis, à l'étranger, sans argent, sans rien. Il a choisi de faire confiance à Dieu. C'est la réponse. Il y en a deux réponses en vérité. Ou vous faites confiance à Dieu, ou vous refusez de faire confiance à Dieu. Dieu ne vous obligera pas. Mais si vous n'êtes pas bien avec Dieu, ne vous en prenez qu'à vous-même. Et que vous restiez pendant quelques jours, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu m'oublies, pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi mes ennemis dominent, vous relirez le psaume 13, etc. Que ça dure 3 jours, 3 semaines, moi je veux bien. Ça, c'est pas grave, c'est biblique. David l'a fait. Mais on peut décider de dire non, moi je prendrai les choses en main, moi ça fait 15 ans que j'attends pour avoir un mari, maintenant j'en ai assez, je prendrai le premier qui se présente, s'il n'est pas converti, eh bien c'est pas grave. Moi je vais m'en occuper, moi, de mon mariage. Vous pouvez le faire ? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez la liberté de le faire. Mais n'accusez pas après Dieu d'être sorti du plan de Dieu. Alors c'est vrai, j'ai l'habitude. Mais monsieur Gau, si vous étiez à ma place, vous parleriez autrement. Écoutez, je pense avoir vécu certaines situations où j'aurais pu décider d'abdiquer dans le mauvais sens. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous pensons pas, si nous sommes ici dans la maison de Dieu, nous avons chanté, dans 10 minutes, nous allons partager la communion fraternelle. Cet après-midi, pour ceux qui le veulent, nous nous retrouverons pour l'évangélisation. Nous avons partagé le pain et le vin. Nous avons demandé à Dieu qu'il nous parle. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'au travers d'une situation comme celle de Joseph, Dieu ne peut pas nous parler et nous montrer qu'il n'est pas obligé de parler pour intervenir ? Il fait ce qu'il veut. Il est fidèle. Même s'il y a des moments où il aurait pu dire, je ne sais pas si Dieu est toujours fidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va décider vraiment de lui faire confiance ? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, j'ai compris, pour être Premier ministre dans un pays arabe en étant juif, je pense qu'il fallait quand même que Dieu s'occupe un peu du développement et du caractère de Joseph. Oui ou non ? Vous voulez servir le Seigneur ? Répondez-lui à lui, pas à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit, mais moi, je veux être un chrétien, mais j'ai compris que je suis chrétien pas que pour ma petite bénédiction à moi, il y a un plan, le corps de Christ. Vous l'avez compris, ça, quand vous avez pris le baptême, que le plan, il se regroupait à un ensemble ? Ou est-ce que vous ne le comprenez pas ? Peut-être que Joseph l'avait pas tout compris. En tous les cas, je peux vous dire que ça servait à un ensemble. Est-ce qu'il y a je vous pose une question sérieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un là au milieu de nous qui parle à Dieu et qui dit « Seigneur, si ces épreuves que je traverse contribuent à une formation de mon caractère, contribuent à une formation spirituelle, humaine, pour que je puisse faire quelque chose dans l'Église ?» Oh, l'Église, mais oui. Vous croyez que vous êtes dans l'Église juste pour vous asseoir le dimanche matin et regarder un pasteur prêcher ? Ou est-ce que vous avez compris que vous êtes dans l'Église parce que Dieu a un plan pour l'Église ? Si vous lui faites confiance, vous entrerez dans le repos. Vous resterez couché sur le lit. Si vous ne recevez pas ces instructions, écoutez, je pourrais argumenter longtemps cette prédication. Si vous ne recevez pas ces instructions, vous ne rentrerez jamais dans le repos. Je ne sais pas si vous le comprenez. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Si vous ne recevez pas ça, vous pouvez dire, oui, c'était intéressant. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas intéressant, c'est spirituel. Et si nous acceptons ces instructions et dire, Seigneur, moi je vais imiter la foi de cet homme. On peut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés ? C'est écrit ça, d'imiter la foi ? De ceux qui parlaient à la persévérance et la patience ont obtenu les promesses ? Oui, ça doit être écrit quelque part dans les Hébreux, au chapitre 6. Alors on va lui demander de l'aide. J'aimerais qu'on se recueille. Et que même si vous ne dites pas Amen à ma prière, peut-être vous puissiez lui dire certaines choses au Seigneur maintenant. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Franchement, ça ne vaut pas la peine que vous répondiez à cette prédication. Est-ce que mon frère, tu comprends que peut-être tu es dans le début du psaume 13 parce que tu ne t'occupes que de toi. Que de toi. Est-ce que tu comprends que l'épreuve que Dieu permet dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu rentres dans un plan. Un plan pour l'Église. Et quand Dieu te bénira dans l'Église, laisse-moi te dire que ta famille sera bénie. Alors, mon frère, ma sœur, réponds consciencieusement. Il n'y a pas que la foi, je l'ai dit, il y a la conscience. Est-ce que tu as une conscience saine ? Seigneur, oui, je sais, j'ai saisi qu'il faut que je m'implique dans la vie de l'Église. Moi, je ne vous le dis pas pour moi, je vous le dis pour vous. Je dois m'impliquer dans une activité, l'évangélisation, la prière, les deux, la chorale, la musique, je sais, les enfants, les ados. Je dois m'impliquer. À moins que vous ayez trois ou quatre gosses à la maison tout petits, là, c'est sûr que vous pouvez vous autoriser un break, bien vous occuper de la vie, de la piété de vos enfants. Ça, si vous avez des enfants petits, occupez-vous de vos enfants. Mais si vous n'avez pas d'enfants ou si vos enfants sont grands, mais qu'est-ce que vous faites ? Sinon, Dieu va vous éprouver. Dieu, il ne se moque pas des gens. Mais vous croyez que Dieu se moquait de Joseph ? Sérieusement. Dieu, il pensait à des plans bénis pour Israël. Dieu a des plans pour l'Église. Tant qu'on est sur la terre, Dieu a un plan. Alors j'aimerais qu'on lui réponde, vraiment qu'on lui réponde. Demandez à Dieu de l'aide. Sortez de la paresse, de l'inactivité, sortez de ça, ça va vous mettre hors du plan de Dieu. Et quand Jésus reviendra, vous resterez avec vos pleurs parce que vous n'aurez pas obéi à ce que Dieu vous a dit au travers de mon ministère. C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui te le dit. Entre dans le plan, entre dans les œuvres préparées à l'avance. Arrête peut-être de regarder ta télé tout le temps, ton Facebook, je ne sais rien, et mets-toi devant le trône. Et implique-toi dans le service. Tu verras si les choses ne changeront pas. Notre Père, notre Dieu, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, et en plus, tu nous appelles à entrer dans des œuvres. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui écouteront par le biais d'Internet cette prédication, mais tous ceux qui sont déjà là ce matin dans ce lieu, et qui se sont enfermés dans la désobéissance ou dans la paresse, réveille-les, Seigneur, réveille-les, afin que tous soyons trouvés debout lorsque tu vas revenir. Pardonne, Seigneur, la négligence, l'iniquité, pardonne la désobéissance et fais qu'en toute chose nous sachions que même lorsque tu ne parles pas, lorsque quelqu'un t'obéit, tu es fidèle et tu agis. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.